Returning this evening to Psalm 142 and verse 4.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce soir dans le psaume 142 et au verset 5. Psaume 142, verset 5. Les paroles de David. Regarde à ma droite et vois. Personne ne me reconnaît. Tout refuge me manque. Personne n'a souci de mon âme. Et notre sujet est le suivant. Qui prend soin de votre âme? Ce psaume relate un événement dans la vie du roi David peu de temps après qu'il ait été oint en tant que roi. Mais il n'était pas encore roi à ce moment-là. Il a été oint, mais Saül régnait encore. Et Saül savait ce qui allait se passer. Il a poursuivi David. Et selon ce psaume, à ce moment-là, il y a 3000 hommes de l'armée de Saül qui poursuivent David. Nous ne savons pas exactement où il était, mais l'un de ces lieux isolés dans lequel il prend refuge, dans une caverne, et il est anxieux et dans la détresse. Je crie de ma voix à l'Éternel, de ma voix je supplie l'Éternel au verset 2. Et ce langage implique ici la nature extrême de son anxiété, de son souci, de sa difficulté. Je répands au verset 3 devant lui ma plainte, j'expose ma détresse en sa présence. Quand mon esprit est abattu en moi, toi tu connais mon sentier. Et David a réalisé que Dieu avait toutes choses devant ses yeux, constamment. Ils m'ont caché un piège dans le chemin où je marchais. Et ensuite, il dit ces paroles extraordinaires. J'ai regardé à ma droite et voici. Personne ne me reconnaît. Personne ne me voit. Tout refuge me manque. Personne n'a souci de mon âme. L'idée ici, c'est que vous regardez à droite pour votre représentant, votre avocat, quand vous êtes devant un tribunal, de même qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans une cour de justice, que peut-être vous êtes présenté devant le roi et êtes introduit et quelqu'un va vous représenter. Mais il n'y avait personne qui allait se tenir fermement pour lui et plaider avec Saül à sa place. Il n'avait pas de défenseur, personne n'était suffisamment courageux pour se tenir pour lui. Et il se sentait entièrement abandonné et seul. Et le but de ce psaume, chaque psaume est relaté pour nous donner une leçon spirituelle. Et David ici va montrer son anxiété et comment il invoque Dieu et le prie. Et ensuite, ceci n'est pas mentionné dans ce psaume, mais il est délivré. Délivré de cette situation difficile. Et c'est là pour nous montrer que, avant la conversion à Dieu, avant d'avoir une interaction réelle avec lui, il doit y avoir un sens d'un profond besoin de lui, une anxiété, quelque chose que vous ne pouvez pas faire par vous-même, que vous ne pouvez pas mériter. Il n'y a personne sur cette terre qui peut vous aider. Seul Dieu peut répondre à votre prière. Ceci parle de trouver Dieu, d'avoir la communion avec lui, d'être accepté par lui, d'être trouvé par lui, d'être béni par lui. Comment est-ce que vous en arrivez là? Comment est-ce que vous approchez de lui? Vous devez venir par une expérience et vous réalisez que vous n'avez rien à lui offrir. D'aucune manière vous pouvez venir à lui ou mériter sa faveur, sa bénédiction. Vous avez besoin de sa miséricorde. Il n'y a personne sur cette terre, pas de prêtre, pas d'enseignant, personne qui peut vous amener dans la présence de Dieu. Mais vous devez l'invoquer et avoir la foi en lui et vous repentir devant lui. C'est là ce que sera notre message ce soir et cette expérience de David qui est dans une anxiété terrible, dans la terreur. Avant de trouver la bénédiction de Dieu, c'est un parallèle avec l'expérience de chercher Dieu, de le trouver pour être sauvé. Et c'est pour cela que ceci est là et c'est précieux pour nous. Et les termes utilisés sont puissants. Regarde à ma droite et vois. personne ne me reconnaît, personne n'a souci de mon âme. Avoir ce souci pour notre âme, nous avons une âme et nous le savons à peine si souvent. Votre âme, un aspect immatériel de vous, est pourtant un aspect essentiel. Vous ne pouvez pas disséquer le corps humain et trouver l'âme. C'est une partie immatérielle, une faculté immatérielle qui est imprimée profondément dans votre constitution. C'est votre moi. Ceci influence votre personnalité, mais en premier, c'est votre faculté de communiquer avec Dieu. C'est la faculté par laquelle vous pouvez marcher avec Dieu et avoir cette communion avec lui potentiellement et le prier et connaître sa puissance. Mais malheureusement, à cause du péché, votre âme dort. Elle n'est pas active. Elle est endormie en ce sens-là. Avant la conversion à Dieu, vous n'avez pas de contact avec Dieu, de communion avec lui. Vous ne pouvez pas le prier. Vous ne le connaissez pas. Et il n'œuvre pas tendrement en vous. Ainsi, vous avez ce potentiel en vous, dans votre âme. Mais votre âme est endormie, inactive. Certaines personnes disent que l'âme est morte. Et dans un certain sens, c'est le cas. Mais pas entièrement. Elle dort simplement, elle est endormie. Elle ne fonctionne pas. Votre âme, vous prenez soin de votre corps, parfois d'une manière très intense. Nos anxiétés par rapport à notre corps, nos douleurs, est-ce que cela voudrait dire, et nos problèmes, nos soucis, peut-être pour apparaître, et peut-être nous nous habillons d'une manière très élaborée, et nous mettons en avant, le corps est si important pour nous. Et l'âme, qui est infiniment plus importante que le corps, l'élément éternel de vous-même, on n'y pense même pas. Les gens savent à peine qu'ils ont une âme, et ceci nous amène à une catastrophe, parce que nous n'avons que cette vie pour aimer Dieu, pour le servir, pour le connaître, pour le découvrir, pour avoir cette communion avec lui. Et si nous mourons avec cette âme sans vie, dormante et sans but, cette faculté spirituelle, alors nous devons rendre compte devant Dieu et nous allons être jugés et condamnés. Qui prend soin de l'âme? Et le premier point, ceci est évident, j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je dis cela, et ce n'est pas quelque chose de politique. Mais le gouvernement ne prend pas soin de votre âme. Peu importe le gouvernement, non pas dans ces temps athées, le gouvernement ne prend pas soin de votre âme. Il n'y a rien du tout dans la législation du gouvernement pour vous aider en ce qui concerne votre âme. Aucun intérêt pour votre âme si vous marchez avec Dieu ou pas. La société, de manière générale, dans ces jours athées, n'est pas intéressée par votre âme. Ça n'a pas été toujours ainsi, mais de nos jours, c'est ainsi. Aucun intérêt dans votre âme, l'âme des hommes et des femmes. Nous sommes en temps d'élection dans ce pays, et tout le monde sait qu'il y a tant d'efforts mis en avant pour nous présenter des idées politiques d'un parti et de l'autre parti, mais aucune parole pour notre âme, nulle part. Parce que nous sommes dans notre pays dans un temps d'incrédulité terrible. L'université ne va pas non plus vous aider, même si elle a beaucoup de connaissances, beaucoup de choses sophistiquées, de cours sophistiqués, des choses importantes, nécessaires pour cette vie matérielle. L'université n'a rien à vous donner pour votre âme. Rien, d'aucune manière. Et vous ne pouvez pas venir à Dieu par un processus d'éducation uniquement. Il y a quelque chose de plus profond que l'information pour vous amener à Dieu. Et nous allons parler de ceci. Les hôpitaux font un bon travail, mais l'hôpital ne peut pas guérir votre âme ou rendre votre âme active l'amener à la vie et vous donner la communion avec le Dieu Tout-Puissant. Votre employeur n'est probablement pas du tout intéressé par votre âme et n'a pas de souci pour votre âme. Ou votre banque, ou votre magasin, votre supermarché préféré, rien pour votre âme. Mais qu'en est-il de vous? Est-ce que vous êtes en souci pour votre âme? Et ce qui va se passer pour votre âme et votre relation avec Dieu, le Dieu Tout-Puissant? Et la vérité, c'est que, à moins que Dieu n'œuvre dans notre cœur, nous ne sommes pas en souci par rapport à notre propre âme. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus étrange que ceci? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas en souci pour notre âme? Pourquoi? Certaines personnes, oh, je ne veux insulter personne, j'espère que ce n'est pas votre cas, mais certaines personnes ne se soucient pas de leur âme parce que ces personnes sont trop superficielles. Elles sont entièrement superficielles. L'éternité, l'âme, ils ne s'en soucient pas. Ils ne pensent pas à Dieu, à l'éternité, à l'âme, à leur existence. Qui suis-je? Certaines personnes ne pensent pas à cela. Certaines personnes sont devenues très superficielles d'une certaine manière et ils ne pensent pas à l'âme. Oh, nous sommes tous ici uniquement par hasard, un pur hasard. Pas de création, uniquement le hasard. Il n'y a pas d'explication. Je ne veux pas d'explication. Je ne veux pas réfléchir à ces choses. Je préfère croire que tout ceci est un mystère total et je ne pense pas à ce genre de choses, dit la personne superficielle. Je préfère penser à des choses que je peux toucher, voir, posséder. Et c'est tout. C'est là la limite de mes intérêts et de ma pensée. Certaines personnes, et ceci est tragique, certaines personnes sont trop superficielles, que ceci ne se passe jamais pour vous. Et Dieu est une explication et l'éternité. Ils ne veulent pas y penser. Pour certaines personnes, c'est un peu différent. Non pas qu'elles soient trop superficielles, nécessairement, mais trop superficielles d'une autre manière. Ils sont entièrement satisfaits par l'existence matérielle de ce monde. Ce monde est merveilleux pour eux. Les choses matérielles, c'est tout ce que je veux. Je suis entièrement satisfait. Toutes mes ambitions sont satisfaites. Tout ce que j'ai, c'est me faire plaisir, être content dans ce monde limité, tangible et fini. Et je suis heureux. Et ils peuvent être heureux jusqu'à un certain point et continuer dans la vie où il y aura des déceptions. Mais ils sont satisfaits. Et ceci est fatal et terrible. Si ceci se passe pour vous, certaines personnes sont handicapées dans le sens où ils sont entièrement ignorants par rapport à Dieu. Ils n'ont pas d'information, de substance pour avoir cette base, pour réfléchir et méditer. Ils ne savent rien par rapport à Dieu, rien. Et ceci peut se passer de nos jours. Ils ne savent pas. Ils n'ont jamais entendu parler de la création, la chute de l'homme. Il y a tant de gens, oh, si je leur demandais, est-ce que vous avez entendu parler de la chute? La quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? La chose la plus fondamentale dans l'histoire de la race humaine, la chute de l'homme. Ils n'ont jamais entendu parler de ces choses. Ils ne connaissent pas ces choses. Ils ne connaissent pas l'explication de comment l'homme en arrive à sa condition présente. Quelqu'un qui a une certaine connaissance du bien et du mal, et cependant, il ne peut pas vivre selon ses critères moraux. Comment est-ce que vous expliquez cela? Ils ne savent pas ces choses. Ils sont ignorants par rapport à Dieu. Ils ne connaissent pas l'histoire de la race humaine, la chute de l'homme. Ils ne savent pas que le Sauveur est venu. Ils savent vaguement ce que c'est que Noël, mais ils ne savent pas réellement la signification. Ils ne savent pas que la deuxième personne de la Trinité est venue dans ce monde pour représenter les pécheurs, pour souffrir, pour mourir à la croix du calvaire. Vous parlez de la mort expiatoire de Christ à la croix du calvaire. Ils sont stupéfaits, ils n'ont jamais entendu parler de cela. Peut-être qu'ils en ont entendu parler, mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas compris, ainsi c'est comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de ces choses. Et ceci peut se passer même pour des gens très intelligents. J'ai eu tant de gens qui m'ont dit d'année en année, quand j'ai entendu l'évangile, c'était comme si je ne l'avais jamais entendu auparavant. Et j'ai probablement entendu ces choses des dizaines de fois, mais quand la vérité de l'évangile, le plan du salut, ce que Dieu a fait, je l'ai réalisé, c'était comme si jamais personne ne m'avait parlé de l'évangile auparavant, et c'est le cas pour nous, nous laissons les informations passer et nous n'écoutons pas. Ainsi, il y a l'ignorance de Dieu, de sa miséricorde et du plan du salut qu'il nous a donné pour nous pardonner, pour nous donner le salut et la conversion, la nouvelle naissance. Ils ne savent pas ces choses et les promesses de Dieu par rapport à la fin des temps et l'éternité. Ignorance. Chers amis, ceci peut se passer si facilement. Ainsi, les gens sont handicapés parce qu'ils n'ont aucune de ces informations à l'esprit. Et ensuite, il y a certaines personnes qui sont déjà piégées par le péché, l'un ou l'autre péché. Je me souviens d'un ministre il y a quelques années et nous avons parlé des choses de Dieu pendant un certain temps et il m'a dit « Je ne pourrai jamais être un chrétien tel que cela, je ne pourrai jamais être converti et trouver Dieu. » Et pourquoi ? Il a dit « Oh, alors je devrais mettre de côté l'alcool. » Oh, autant que je sache, il n'était pas quelqu'un qui était alcoolique ou qui buvait beaucoup. Mais ceci, d'une certaine manière, avait tant de contrôle sur lui. Il a réalisé que ceci n'allait pas être approprié s'il voulait servir le Seigneur et l'adorer. Et qu'en même temps, il dépendait pour son humeur de l'alcool, et ainsi c'était un obstacle pour lui. Il ne pouvait pas se tourner vers Christ de cette manière-là. Il y a beaucoup de gens, tant de gens, qui ont des péchés terribles et des dépendances terribles, et ceci vous a piégé et agrippé. Vous n'êtes pas libre de penser à l'éternité, à Dieu, à l'âme. Quelle tragédie que ceci! Combien c'est triste! Et il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles nous ne prenons pas soin de notre propre âme. Mais ce que je voulais vous dire, c'est ceci. Dieu prend soin de l'âme. C'est là l'essence même du psaume de David. Personne n'était en souci de ma situation. J'étais loin pour être roi et personne ne me défendait. Personne n'était là pour être mon avocat. Aucune voix pour me défendre. Mais j'ai réalisé que Dieu était là, qu'il me regardait et qu'il prenait soin de moi. Et de même pour mon âme, je n'ai pas pris soin de ma propre âme et soudainement je réalise que Dieu prend soin de mon âme. C'est une chose extraordinaire. Même si Dieu est élevé, tout puissant, même s'il habite toute l'éternité, même s'il a l'intellect divin infini et au-delà de tout ce qu'on peut mesurer, observer, le Dieu éternel, la majesté céleste, il prend soin de votre âme. Ceci est merveilleux. Un tel amour qu'un tel Dieu, si loin de nous, puisse prendre soin de nous. Quand nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, et le soin de Dieu pour notre âme est là, même si nous l'ignorons, même si nous le méprisons, même si nous nous moquons de lui. Et cependant, il prend soin de l'âme humaine. Isaac Watts écrit ceci. Il a vu la nation là périssant dans le péché et il a eu pitié de ce monde dans la ruine et dans son état de perdition. Quelle chose extraordinaire! Le Dieu Tout-Puissant a eu pitié de l'âme humaine et il a pris soin de chaque âme individuellement. Ceci est extraordinaire et unique. Et il nous voit et il a conçu le plan du salut, le chemin pour nous donner le pardon. Quel roi sur cette terre, quel gouverneur voit les sujets un par un et prend soin de chacun individuellement et pourvoit pour eux, oh la miséricorde si merveilleuse de Dieu. Quand Dieu a conçu le chemin du salut, il a eu un problème terrible. Oh, je parle avec grand soin parce que dans un certain sens, Dieu n'a aucun problème. Dieu peut résoudre tout problème. Dieu peut tout faire. Mais pour notre compréhension, nous devons le voir comme étant un problème. Le problème était le suivant. Dieu est entièrement pur et parfait et saint et sans tache. Et à côté de ceci, il est entièrement juste. C'est sa nature juste et sainte. Et il est contre le péché. Et il doit condamner le péché. Pour cela, le péché doit être condamné. Dieu le Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, ne peut pas accepter le péché humain. Il ne peut pas le contempler. Il est entièrement contre le péché. Son indignation, sa colère brûlent intensément contre le péché. Ainsi, comment est-ce qu'il peut montrer son amour, son affection envers nous? Parce que le péché est un obstacle, la culpabilité est un obstacle. Il a un cœur plein d'amour. Mais comment est-ce qu'il peut aimer ce qu'il déteste dans sa nature même? Comment est-ce qu'il peut pardonner quand dans sa nature même il doit juger? D'un point de vue humain, nous appelons ceci le problème de la Trinité, le problème de Dieu. Comment Dieu peut être juste et celui qui justifie les pécheurs? C'est impossible. Ceci est absolument impossible, sauf d'une manière qui est la suivante. Dieu doit venir lui-même et il doit entrer dans notre monde. Il doit prendre notre place et nous représenter. Et Dieu le Père doit envoyer le Fils, et le Fils doit être revêtu de notre culpabilité. Celui qui est sans péché, sans tache, doit être revêtu de notre culpabilité. Et Dieu le Père va le condamner, lui, à notre place, et la justice, la colère, la pureté de Dieu est satisfaite entièrement, et Dieu est réconcilié. Il a réconcilié sa justice parfaite avec son amour infini. C'est là ce que la venue de Christ signifie, c'est là le chemin du salut, chers amis. Et c'est le seul chemin. Dieu a conçu ce plan, ce dessein dans l'éternité passée, et Christ est venu. Il est allé à la croix du calvaire volontairement. Il s'est laissé arrêter dans une faiblesse apparente. Il a souffert et il est mort dans une agonie terrible, terrible, une agonie physique terrible, mais une agonie spirituelle terrible, l'agonie de l'âme que personne ne pouvait voir cachée par 3 heures d'obscurité. Et il a porté la condamnation éternelle, condensée en l'espace de 6 heures, à la croix du calvaire, pour la condamnation que nous aurions dû porter en enfer et souffert en enfer, si nous sommes ceux qui sommes pardonnés. Ceci est extraordinaire. Dieu prend soin de votre âme de cette manière qui lui a coûté tant. Ceci est inimaginable. Et nous pouvons être pardonnés et sauvés et réconciliés avec lui. Et chers amis, mon temps est presque passé. L'Église de Christ réelle, authentique, prend soin de votre âme. Les chrétiens qui ont été sauvés de siècle en siècle, qui ont été sauvés de la condamnation et de l'enfer, qui marchent avec Dieu, qui aiment Christ, leur cœur a été rempli de ce souci pour votre âme. Et de siècle en siècle, les chrétiens ont envoyé des missionnaires, ont prié pour les âmes, ont prêché l'Évangile et fait toutes sortes de choses à grand prix pour leur vie, pour prendre soin de l'âme des hommes et des femmes, parce que leur Père Céleste prend soin des âmes, c'est là l'œuvre de l'Église de Christ. Les gens meurent pour ce message, pour qu'il soit connu et déclaré, les martyrs de siècle en siècle. Parfois, le monde haït le message, le messager et les met à mort. Mais Dieu, son Église, continue à prendre soin de l'âme humaine. Mais l'œuvre de Christ seule sauve l'âme et nous amène à lui et nous réconcilie avec Dieu. Et pour conclure, j'aimerais rapidement lire ces versets. Et c'est ainsi que vous venez à Christ. Verset 2, « Je crie de ma voix à l'Éternel, de ma voix je supplie l'Éternel. » C'est une supplication. Une supplication, c'est une prière qui est faite par quelqu'un qui ressent qu'il ne mérite rien. Et c'est ainsi que nous devons venir à Christ. « Je n'ai pas de justice en moi-même, je suis un pécheur. » Un incroyant dans ma vie passée, « Seigneur, je viens, pardonne mon péché librement, je te prie. » Accorde-moi un salut libre, une vie nouvelle et une place au ciel. C'est une supplication. Seul Christ peut payer le prix pour moi par ce qu'il a fait à la croix du calvaire. Verset 3, je répands devant lui ma plainte. J'expose ma détresse en sa présence. Abandonnez tout et dites-lui quel est votre problème, que vous êtes un pécheur perdu, que vous ne le connaissez pas, que vous êtes sur le chemin vers l'enfer, vers la condamnation éternelle, que vous avez besoin de sa miséricorde, de sa bonté. Et montrez-lui votre détresse. Quand mon esprit est abattu en moi, toi, tu connais mon sentier. Venez à Dieu, ayez foi en lui. Croyez qu'il est celui qui peut vous aider, qui connaît tout par rapport à vous, et il va entendre votre cri et va y répondre. Verset 5, « Regarde à ma droite et vois, personne ne me reconnaît. Tout refuge me manque, personne n'a souci de mon âme. » Quand vous venez à Christ dans la prière, dites-lui qu'il n'y a rien que vous pouvez faire pour changer votre propre vie ou pour vous sauver vous-même. Vous avez besoin d'une œuvre de Dieu, d'un don de Dieu. Éternel, je crie à toi et je dis, tu es ma retraite, mon partage dans la terre des vivants. Dites-lui ceci, ô Seigneur, si je suis pardonné, je te donne ma vie. Ma grande joie sera de te servir, d'apprendre de toi, de te plaire. Sois attentif à mon cri, car je suis fort misérable. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Retire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. La foi de David, et nous devons venir avec foi, nous repentir de notre péché, et nous donner, nous consacrer entièrement au Dieu vivant. Chers amis, souvent on raconte l'histoire d'un petit enfant, d'un garçon. C'est une vieille histoire. Il a reçu un train électrique pour son cadeau de Noël et il aimait ce train. Et quelque chose s'est passé. Et il s'est mis en colère. Et dans sa colère, il s'est mis sur deux pieds et il a écrasé son train et il a tout mis en pièces. Et peu de temps après, il a réalisé ce qu'il a fait. Il était inconsolable. Ceci a brisé son cœur. Il a mis en pièces ce qui était si précieux pour lui. C'était simplement un enfant. Ceci est triste, mais il était un méchant garçon et il a fait quelque chose de très insensé. Et parfois un petit enfant fait ces choses. Oui, mais est-ce que vous vous comportez de la même manière? Vous êtes contre Dieu? Furieux contre lui? Vous ne le voulez pas? Vous voulez votre vie, tout pour vous-même, votre propre chemin? Ainsi, vous gâchez votre âme? Quelle tragédie! Vous dites, oh, seul un petit enfant fait ceci? Non, en ce qui concerne l'âme, même des gens âgés font ces choses insensées, des adultes, des gens mûrs, et ils détruisent la chose la plus précieuse qu'ils possèdent, l'âme et tout son potentiel. Ne faites pas ceci, chers amis, venez au Seigneur, cherchez-le et recevez sa vie nouvelle, votre âme vous amènera dans l'éternité avec lui pour toujours. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, fais-nous grâce à chacun, nous te prions. Aide-nous, Seigneur, pour que nous puissions prendre ces choses au sérieux, les choses de l'âme. Accorde, Seigneur, que nous puissions te trouver et la vie éternelle et le bonheur et la sagesse. Ô Seigneur, viens, descends dans ton amour, dans ton pardon et œuvre en chacun. Nous te le demandons dans le nom de notre Sauveur bien-aimé pour sa gloire. Amen.